Bonjour à tous. Quel est l'état de santé réel de Donald Trump? Une vidéo du président américain postée cette nuit se veut rassurante. Mais entre les déclarations de son médecin et de son chef de cabinet, c'est plutôt la confusion à la Maison-Blanche. Des centaines de secouristes mobilisés dans les Alpes-Maritimes après les intempéries qui ont particulièrement éprouvé la commune de Roquebillière, où un couple de nonagénaires a été emporté avec sa maison par les flots en furie. Les enquêteurs français à Beyrouth pour faire la lumière sur l'explosion de début août, car deux Français figure parmi les victimes. Et puis, du cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège et un Julien Alaphilippe très attendu.
Un mot sur les invités de cette matinale. À 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Marcelo Westfred pour le Jardin secret de la République. C'est un livre.
Et à 8h20, rendez-vous avec François Asselin, le président de la CPME, les petites et moyennes entreprises.
France Inter.
Et donc cette cacophonie à la Maison-Blanche autour de l'état de santé du président américain, 24 heures après son hospitalisation, Donald Trump, malade du Covid, se veut rassurant, sur Twitter notamment.
Âgé de 74 ans, Donald Trump apparaît dans une vidéo postée dans la nuit, en blazer, sans cravate, le teint moins orangé qu'à son habitude, moins volubile. Alors il dit se sentir beaucoup mieux, mais il admet dans cette vidéo que les prochains jours seront le vrai test pour lui.
I came here.
Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas très bien. Je me sens beaucoup mieux désormais. Nous travaillons dur afin que je sorte d'ici, il le faut. Parce que nous devons toujours rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous avons déjà fait du super boulot, mais ce n'est pas terminé. Et il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. Et je serai de retour, je crois que ce sera rapidement. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à des millions de gens partout dans le monde. Et je me bats pour eux, pas seulement aux États-Unis. Je me bats pour tous ces gens, partout. On va vaincre ce coronavirus, ou peu importe comment vous voulez le nommer, on va le vaincre avec fracas. Alors je veux juste vous dire que je commence à me sentir bien. On ne sait pas ce qui va se passer. Je crois ces prochains jours, c'est le vrai test, alors on verra ce qui se produit.
Extrait de la vidéo de Donald Trump postée cette nuit sur son compte Twitter. Seulement après ses déclarations optimistes, son médecin s'est montré plus nuancé. L'état du président Trump continue à bien évoluer. Il a fait des progrès substantiels depuis le diagnostic, mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Et puis le chef de cabinet du président est venu ajouter de la confusion. Il a confié au New York Times que vendredi matin, moment où le monde apprenait que le président était positif, les nouvelles étaient inquiétantes car son taux de saturation en oxygène baissait rapidement. Retour en France avec le calme, revenu ce matin dans les Alpes-Maritimes, le calme après la tempête Alex d'une rare intensité, particulièrement touchée par les crues de la Vésubie, la commune de Roquebillière à une cinquantaine de kilomètres de Nice, théâtre dans la soirée de vendredi d'une scène difficile qui restera dans la mémoire collective des Français. Un couple de personnes âgées, très aimées du village, a fait des signes jusqu'au bout à l'aide d'une petite lampe de poche. Peu après cette vidéo, leur maison était emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Thibault Lefèvre.
Ce sont des amis, des mots simples pour exprimer sobrement la peine contenue que ressent le maire de Roquebillière, Gérard Manfredi, après la disparition du couple vendredi.
Quelle tragédie! J'étais président d'un comité des traditions et eux avaient toujours été présents et avaient participé, avaient travaillé dans l'intérêt du village. C'était resté des amis, on avait tellement travaillé ensemble.
Elle avait 93 ans, lui 97. Ils habitaient à une centaine de mètres de l'eau dans le vieux village de Roquebillière. Et quelques heures avant le drame, ils avaient été contactés pour quitter les lieux.
On a une liste de personnes qui sont situées dans une zone qui peut présenter un péril. Ses amis faisaient partie de cette liste. Ils ont refusé de partir. Ils ont dit que tant qu'à faire, ils préféraient mourir sur place. Et on est passé voir avec le responsable des routes de la métropole. Mais là, c'était bien trop tard. Moi, je me suis éloigné 5-10 minutes. Et le responsable des routes est resté en essayant de leur dire de partir. Et il a vu la maison se fendre et disparaître sous les flots avec eux.
Entre 70 et 80 personnes ont été prévenues vendredi de l'imminence de la catastrophe. Deux maisons ont été emportées par l'eau et un peu plus d'une cinquantaine d'habitants ont été relogés en urgence.
Thibault Lefèvre, et près de 1000 pompiers sont mobilisés ce dimanche dans les Alpes-Maritimes pour essayer notamment de retrouver des personnes portées disparues. Elles sont au nombre de 8 selon le dernier bilan des autorités. Paris, comme Marseille et la Guadeloupe, la chronique d'une fermetures annoncées face à la progression de l'épidémie. Le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui ou demain la fermeture dès lundi des bars à Paris. Objectif, limiter les interactions sociales. Les restaurants espèrent encore échapper à une fermeture grâce à un protocole sanitaire renforcé. Il y a 2 mois, le port de Beyrouth était ravagé par une très forte explosion, déflagration d'un stock de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, 190 morts, 6500 blessés, parmi les victimes 2 ressortissants français. Donc, une enquête a été ouverte en France. Et France Inter vous explique ce matin comment travaillent les enquêteurs français à l'étranger. Ils sont souvent amenés à intervenir quand des compatriotes sont tués hors de nos frontières. Ariane Grissel.
Quand des Français sont tués à l'étranger, les magistrats en France peuvent faire ce que l'on appelle une demande d'aide pénale internationale. L'enquête reste alors confiée aux autorités locales. Les enquêteurs français sont là en soutien, c'est le cas au Liban. Éric Béraud est le chef de l'Office central de répression des violences aux personnes co-saisies dans ce dossier.
Nous avons été autorisés à faire des constatations avec la police libanaise, dans les appartements les plus ravagés, et puis nous avons pris contact avec la plupart des victimes.
L'Office traite actuellement une centaine de dossiers.
Essentiellement l'Afrique, c'est à peu près la moitié de nos dossiers. On a pas mal d'affaires sur Madagascar. Ensuite, on a l'Amérique du Sud et puis l'Asie du Sud-Est et un peu l'Europe aussi.
Pour mener ces investigations, la France dispose d'un réseau d'attachés de sécurité intérieure. Ce sont les correspondants du ministère de l'Intérieur à l'étranger. Ils sont 73 qui couvrent 146 pays, dont le commissaire divisionnaire Yann Le Goff, basé à Singapour.
Le but est d'aider les enquêteurs français, en lien avec les enquêteurs locaux, à faire ces enquêtes et à réussir à faire que la vérité soit découverte, soit que nous puissions interpeller des gens qui ont commis des délits à l'étranger, qui sont soit français, soit qui les ont faits sur des victimes françaises. Il y a une part importante de diplomatie. On ne peut pas arriver en terrain conquis à l'étranger. C'est le meilleur moyen pour que les portes se ferment.
Policiers et gendarmes peuvent également intervenir à l'étranger pour former leurs homologues locaux. Façon aussi de poser les bases d'une collaboration en vue de possibles enquêtes à venir.
Reportage d'Ariane Grissel. La politique en France avec la fin du psychodrame de l'été. C'était à la mairie de Paris autour du cas de l'ancien adjoint Christophe Girard accusé de viol sur mineur.
Les 2 élus écologistes mis au banc de la majorité pour avoir bruyamment dit leur colère ont été réintégrés dans la majorité parisienne. Elles obtiennent donc le droit de siéger au sein des quelques 600 délégations que se partagent les élus de la ville de Paris. Cette affaire aura été le révélateur surtout d'un choc de culture politique entre jeunes activistes écologistes et une majorité venue du Parti Socialiste, installée depuis 2 décennies sous les ordres de l'hôtel de ville Laurence Perron.
Tout le monde y a mis du sien et les pics de canicule de cet été sont désormais derrière nous, assure un membre de la majorité parisienne, qu'on a connu pourtant très agacé par les accusations. Culture du viol, hôtel de ville stigmatisé pédolande. Si Christophe Girard a bien été démis de ses fonctions d'adjoint, Alice Coffin et Raphaël Rémy Leleu, les 2 élus féministes et écologistes qui l'ont combattu, avaient trouvé aussi une place de choix sur la liste noire d'Anne Hidalgo. Il y a aussi une véritable incompréhension de départ, liée à des cultures politiques très différentes. La maire de Paris ne fait pas plier le préfet de police en déversant des pots d'échappement sur le parvis de la préfecture. Alice Coffin, qui défend en ce moment son dernier ouvrage intitulé « Le génie lesbien », qu'elle a d'ailleurs dédicacé à Anne Hidalgo, Alice Coffin a toujours revendiqué l'activisme. Et les Verts le rappellent, pendant la campagne, on a eu besoin de ses voix. Le fleuve semble désormais rentrer dans le lit et se proche de la mer à Seine, que chacun ait le sens des responsabilités. On gère la première ville de France et ce n'est pas seulement avec le génie lesbien qu'on fait du logement social, qu'on se bat contre la crise sanitaire et qu'on enclenche la transition écologique.
Laurence Perron.
Allez, le sport avec le cyclisme. Une semaine après son magnifique titre de champion du monde sur route, Julian Alaphilippe s'apprête à disputer aujourd'hui la course Liège-Bastogne. Je vous la refais à l'endroit. Liège-Bastogne-Liège.
Bravo, une course en effet qu'il n'a encore jamais remportée. Alors le maillot arc-en-ciel va-t-il le transcender à nouveau? Son retour est en tout cas très attendu et savamment orchestré, Fanny Lechevestrier.
Avec un Julian Alaphilippe impatient comme un enfant devant ses cadeaux de Noël d'enfin courir avec sa nouvelle tunique.
Ouais, j'ai hâte, je vais pouvoir savourer le maillot sur des belles courses, je vais pouvoir réaliser, je suis déjà motivé pour la suite.
Rien d'étonnant quand on a sur le dos, comme il dit, le maillot de ses rêves. Rarement, en revanche, avant une course, on avait vu une telle frénésie et mise en scène autour de la tunique arc-en-ciel. Cela a commencé jeudi soir avec un clip de son équipe, la de Koenig Quickstep, pour dévoiler le nouveau vélo du champion du monde. On y voit Julian Alaphilippe tout ému, découvrant sa monture arc-en-ciel où figure sur le cadre en lettres d'or quelques notes de musique, sa passion, mais aussi celle de Joe, son père décédé. Suit le lendemain une vidéo de sa reconnaissance de la côte de la Redoute, avec pour la première fois le casque arc-en-ciel et le maillot déjà tendu par les fans belges. Du marketing sûrement, mais aussi le symbole de la nouvelle notoriété de l'Auvergnat, pas pour autant effrayé.
J'aurais certainement peut-être envie de me protéger un petit peu plus de tout ça, mais peur, c'est un grand mot. Ce qui est sûr, c'est que moi, je changerai rien.
Motivé par une seule ambition, aller chercher tout à l'heure le deuxième monument de sa carrière.
Un deuxième monument après Milan-San Remo l'an passé. Alors ses principaux adversaires du jour, le Suisse Marc Hirschi, vainqueur mercredi de la Flèche Wallonne, et l'inscrit de dernière minute Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, très impressionnant hier dans le final du Bing Bang Tour. Début de la course 10h25 pour 257 km.
Et compte rendu évidemment sur France Inter. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps...
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Eh bien, ce sera encore un dimanche perturbé, hein, Jean-Michel Golinski.
Dans des températures semblables à celles d'hier, voisines de 18 à 20 degrés du golfe du Lion à la Provence, de 23 sur la Corse et de 14 à 16 sur les autres régions, il faudra s'armer du parapluie en raison des pluies ou des averses, parfois mêlées d'orages qui vont circuler sur le pays, poussées par un vent d'ouest à 80 km/h près de la Manche et sur la façade atlantique, un bon 60 dans l'intérieur, donc une ambiance agitée, perturbée et humide, avec des quantités de précipitations qui vont progressivement devenir importantes sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Des épisodes de pluie également marqués de la baie de Seine aux Flandres-Maritimes, sur le Limousin et l'ouest de la Corse. Partout ailleurs, les précipitations seront plus faibles et intermittentes.